Europejskie.
Rozumienie tutaj Europy.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une émission spéciale en partenariat avec The Conversation et Grégory Reiko. Vous dirigez la rubrique internationale du site, bonjour.
Bonjour Frédéric, oui, je suis en charge de la rubrique internationale au site The Conversation France. C'est un site parfaitement gratuit qui est disponible pour tout le monde où tous les articles sont rédigés par des experts qui écrivent sur leur domaine de spécialité, justement, des universitaires qui analyse l'actualité nationale et internationale. Et dans la rubrique internationale, nous avons énormément d'articles sur tous les grands sujets du moment, notamment sur les sujets européens, les dynamiques internes et externes de l'Union européenne, et aussi sur le reste du monde. Par exemple, aujourd'hui, nous vous invitons à lire un excellent article sur le Kazakhstan.
Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Nicole Nesotto, responsable de la chaire européenne au CNAM et vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, qui publie aux éditions Talendier l'Europe changer ou périr, et également avec nous en studio Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po, cofondateur du site Eurasia Prospective. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nicole Nesotto, j'ai envie de commencer avec vous. Vous êtes une europhile, mais pas une eurobéate. Et vous n'épargnez pas vos critiques sur l'Europe. Vous dites qu'elle est complètement inadaptée au monde d'aujourd'hui, tant en matière économique qu'en matière géopolitique.
Oui, d'abord, je ne crois pas qu'il faille laisser les critiques de l'Europe aux anti-européens. C'est une grave erreur. Et donc, quand l'Europe fait des bêtises ou a des lacunes, je pense qu'il est bon de les déceler de façon à y remédier le plus possible. Ce qui me paraît évident aujourd'hui, c'est que l'inadaptation de l'Europe, c'est pas l'inadaptation de ses politiques ou de ses responsables, c'est parce que les modèles sur lesquels l'Europe fonctionne ont été créés au milieu des années 50 dans un monde qui était le monde de l'après-Seconde Guerre mondiale, le début de la guerre froide, qui est aujourd'hui complètement révolu, qui a disparu, qui ne reviendra jamais. Ces modèles étaient pour la sécurité, l'inscription de l'ensemble de l'Europe dans l'Alliance Atlantique et la protection américaine, et pour la prospérité, c'était l'adhésion à l'économie libérale de marché. Ces deux modèles ont assuré une prospérité extraordinaire à l'Union européenne. Les Trente Glorieuses ont été un phénomène positif totalement inégalé dans l'histoire des pays européens. Mais la mondialisation est arrivée à la fin des années 90. Et ces modèles, aujourd'hui, ne sont plus adaptés. Pour ce qui concerne la sécurité, on voit bien que les États-Unis ont d'autres chats à fouetter, notamment en Asie, et n'ont qu'une obsession, c'est de s'occuper le moins possible du reste du monde, et en particulier de l'Europe, en dépit de la politique russe. Et pour la prospérité, on voit bien que le marché n'assure plus une croissance indéfinie, et qu'au contraire, la mondialisation, les crises de la mondialisation paupérisent une partie des classes moyennes européennes. Et donc, comme on ne peut pas changer le monde, l'idée est qu'il faudrait adapter ces deux modèles en matière de prospérité et en matière de sécurité.
Il y avait une certaine forme de naïveté, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre, l'idée que finalement la coopération économique allait forcément amener cette unité politique, cette famille politique.
Oui, c'était. Je ne sais pas si c'était une naïveté, mais dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, le culte de l'intégration, de ce que Jean Monnet appelait les petits pas, pouvait se comprendre. L'idée, c'était que le nationalisme était quelque chose de négatif, qu'il avait conduit à deux guerres mondiales, et l'option fédérale à l'époque était extrêmement en vogue, extrêmement populaire. Mais comme on ne pouvait pas le dire, parce que les États détestaient ça, on allait le faire subrepticement. Et l'idée était que des petits pas dans les intégrations économiques, agricoles, monétaires, financières, petit à petit, que ces petits pas d'intégration allaient un jour créer un peuple européen, une Europe politique, et qu'on arriverait au résultat final sans jamais l'avoir revendiqué. Donc c'était une illusion, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui qu'il y a une espèce de plafond de verre entre les intégrations économiques qui sont puissantes, qui sont réelles entre les 27, et l'intégration politique qui est pratiquement nul entre les 27.
C'est un peu votre avis aussi, Florent Parmentier. L'Europe, aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, elle est inadaptée dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, je pense qu'on peut partir de deux constats. Le premier constat, effectivement, c'est celui d'un monde qui est de moins en moins européen. Il est de moins en moins européen sur le plan économique, en quelque sorte. Les économies européennes pèsent moins dans le PIB mondial que par le passé. Il y a ce reste des puissances développées, ça reste des puissances avec un fort niveau de développement, mais malgré tout, avec un moindre niveau de croissance. Le monde est moins européen en termes technologiques. Aujourd'hui, finalement, les rivalités technologiques et en quelque sorte sur un certain nombre de technologies sensibles. On voit que la rivalité est plutôt entre les Chinois et les Américains. C'est un aspect important, je dirais aussi moins européen sur le plan démographique. Sur le plan démographique, puisque nous sommes à peu près 500 millions sur un monde qui comportera l'année prochaine 8 milliards d'habitants. Et donc les tendances démographiques vont se renforcer, ce qui fait que l'Europe pourrait devenir, pour reprendre le terme de Paul Verhey, un petit cap du continent asiatique. On est dans cette phase historique-là. Les Européens souhaitent assister, en tout cas les personnes qui pensent que l'Union européenne fait plus partie de la solution que du problème, se disent, en fait, très simplement, que dans ce monde qui est de moins en moins européen, comment fait-on pour passer d'une logique où on est centré sur un projet interne d'intégration à un projet qui permet de répondre aux grands défis de la mondialisation. Et c'est effectivement ce point historique auquel nous assistons depuis maintenant quelques années.
Grégory Réco de The Conversation.
Oui, Florent Parmentier, je voulais justement vous interroger aussi sur la capacité de l'Union européenne à parler d'une même voix. Et pour cela, il faut avoir les mêmes choses à dire. Est-ce que les valeurs européennes dont l'Union européenne se prévaut existent vraiment? On sait que Bruxelles reproche actuellement à certains États membres, je pense évidemment à la Pologne et à la Hongrie, de ne pas respecter les valeurs européennes. Nicole Niesoto parle dans son livre à cet égard de dissidence antidémocratique des anciens pays de l'Est. Est-ce qu'il est possible d'avoir un langage commun quand les valeurs sont différentes?
Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un langage commun? Oui, sur un certain nombre de sujets. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'échelle européenne, en quelque sorte, fait sens. Elle peut avoir faire l'objet de débats, etc. Mais je reprendrai la métaphore d'un ouvrage qui était paru l'an passé de Richard Robert et d'Eli Cohen, qui était la question de la valse à trois temps de l'Union européenne. Ce que disait l'ouvrage, en substance, c'était que on trouve une forme de chemin aujourd'hui, de voie bien identifiée européenne, dans lequel les Européens commencent tout d'abord par être déstabilisés par des chocs extérieurs. C'est vrai, par exemple, de la crise pandémique, mais pas seulement. On pourrait prendre la crise de l'euro, qui sert de matrice à ce niveau-là, une matrice relativement intéressante et construite. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer dans l'ouvrage. Cette crise de l'euro surprend les Européens, les déstabilise, et donc on se dit c'est la fin de l'Europe. Voilà. Deuxième temps de la valse, les Européens commencent à trouver des formes de solutions, d'adaptation par rapport à des problèmes, toujours par la même méthode qui consiste à dire il faut qu'on se mette autour de la table parce que sinon on a plus à perdre collectivement qu'à gagner individuellement. Et puis il y a un troisième temps dans lequel les Européens en général se disent finalement comme on a réussi à faire ce chemin, il faut qu'on aille plus loin. Et donc il y a très souvent en la matière une forme de valse à trois temps qu'on observe, ce qui fait que les valeurs sont des valeurs qui sont discutées, négociées entre les Européens, entre des acteurs politiques. Donc on voit qu'il y a à la fois des valeurs qui sont discutées et puis on a une tension entre les valeurs et les intérêts, évidemment.
Nicole Niesoto, vous le dites dans votre livre, il y a un problème avec les institutions européennes. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui veut avoir une place en matière de géopolitique et de défense. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule voix. On peut même dire qu'il y en a trois. Il y a le haut représentant Josep Borrell, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, aussi le président du Conseil européen Charles Michel. Toutes ces trois personnes veulent parler au nom de l'Europe, sans parler des États qui voudraient pas trop que l'Europe parle à leur place.
Tout à fait. Mais si le problème n'était qu'institutionnel, ça ne serait pas grave. Parce que réformer les institutions, même si c'est très compliqué, même si ça prend du temps, c'est une question technique. Et c'est juste un problème de temps. Donc le fait d'avoir trois représentants ou trois numéros de téléphone, comme aurait dit Kissinger dans les années 70, à mon avis, n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que les États membres, qui en politique étrangère sont souverains, la Commission n'est pas compétente en matière de politique étrangère, en tout cas pas totalement, les États membres ne veulent pas, la majorité des États membres ne veulent toujours pas que l'Union soit un acteur politique influent, ne veulent pas la puissance politique de l'Union européenne. Ils sont très contents, je crois, de que l'Europe soit considérée dans le monde comme une référence. C'est une référence en matière de résolution des conflits, de réconciliation entre les anciens ennemis. C'est une référence en matière, effectivement, de valeurs démocratiques. Mais ils ne veulent pas que l'Europe passe à l'influence. Et ça, c'est le drame des Européens. Et effectivement, il y en a un, alors parfois avec des alliés, mais il y en a un qui se distingue parmi tous les 27, c'est la France. La France, depuis le général de Gaulle, qui n'était pas un grand Européen, mais depuis le général de Gaulle, la France ne s'est jamais satisfaite de voir l'Europe réduite à un pur grand marché sans influence politique. Donc depuis presque 70 ans maintenant, la France défend l'idée que l'Europe doit parler d'une seule voix, doit avoir une influence dans la gestion des crises, y compris et surtout des crises autour de l'Europe, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine.
Au sein des pays membres, comme le mentionnait Grégory Recco avec la Hongrie, par exemple, Budapest joue même une contre-diplomatie européenne, avec des choix qui sont presque à l'opposé de tout ce que souhaiterait le reste des pays membres.
Moi, je ne crois pas que les valeurs communes soient la condition d'une position diplomatique commune. Ce qui est fondamental dans cette histoire, c'est l'histoire, justement. La grande histoire avec un grand H. Ces pays, dont moi je réprouve les positions, mais ont une histoire qui est celle d'une occupation pendant 50 ans par l'armée rouge soviétique, une privation de liberté totale, et donc aujourd'hui ont une vision du monde qui est extrêmement marquée par cette histoire communiste, donc une méfiance, voire une animosité envers la Russie qui est presque, je dirais, existentielle. Alors, on ne peut ne pas la partager, mais on peut au moins comprendre. Et donc, je crois que c'est l'histoire qui est fondamentalement à l'origine de nos divergences de vues, et plus que les valeurs. Les valeurs sont à l'origine de nos divergences de politique intérieure. Moi, je trouve scandaleux que la Pologne et la Hongrie ne remettent en cause l'état de droit. J'ai même écrit dans mon livre qu'ils ne méritent pas aujourd'hui d'être dans l'Union européenne. Moi, je suis pour la suspension des fonds structurels à ces deux pays. Je suis pour la suspension de leurs droits politiques au sein de l'Union. Mais c'est une question de politique intérieure. Pour la politique étrangère, ce n'est pas les valeurs, c'est l'histoire, je pense.
En tout cas, les Européens ne parlent pas d'une seule voix. On peut même dire qu'ils ont beaucoup de mal à accorder leur violon. Et c'est la chronique « L'œil européen » de Franceline Beretti. On l'écoute.
La diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments, a dit Otto von Bismarck. À en croire le Prussien, qui s'y connaissait, pas de diplomatie sans armée. C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron. Le président français voudrait émanciper l'Europe de l'OTAN, qu'il a déclaré en état de mort cérébrale il y a 2 ans, et rendre les 27 plus autonomes militairement. Et donc plus souverain diplomatiquement. Mais il doit composer avec l'Allemagne, les pays baltes, la Pologne, pour qui il n'est pas question de se passer de la tutelle américaine. Cette appartenance au traité de l'Atlantique Nord, pur produit de la guerre froide, divise encore profondément les Européens. Parce que si on est réaliste, chaque État défend ses intérêts nationaux avant l'intérêt commun. Sur la Libye, par exemple, en 2019, la députée italienne et social-démocrate, Lia Quaterpelle, analyse une situation où Paris fait cavalier seul, sans considérer ses partenaires européens.
D'autres puissances se sont mises à intervenir dans le problème libyen, à commencer par la France, la Russie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ils ont encouragé le maréchal Haftar et n'arrivent plus à le contrôler.
Cette idée est répandue dans tout le spectre politique italien. La France a créé le chaos en Libye et Rome essuie les pots cassés. En août 2020, la Turquie envoie un navire de prospection dans les eaux territoriales grecques. La France se dresse aussitôt aux côtés d'Athènes, livrant au passage une vingtaine d'avions Rafale. Derrière chaque crise, une opportunité. Et pendant ce temps, Berlin appelle Ankara à ne pas surenchérir. Mollement. Il faut dire que l'Allemagne vend des sous-marins à la Turquie. Ils peuvent servir contre la flotte grecque. Ce contrat pose quelques problèmes, comme le raconte The Economist.
Bien que la Grèce ne se soit pas opposée à ce contrat en 2009, l'affrontement de l'année dernière a changé la donne. La Grèce demande à l'Allemagne de suspendre cette vente et de proposer les sous-marins à un autre pays. Elle donne l'exemple des États-Unis qui n'ont pas autorisé la Turquie à lui commander des avions de chasse F-35 après qu'elle a acheté un système de défense anti-aérien à la Russie. Mais ça, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd.
D'autres exemples d'absence de diplomatie européenne ? Au Sahel, Paris appelle en vain ses partenaires à s'impliquer dans la lutte contre les djihadistes. Berlin lui répond qu'elle a toujours considéré la zone comme sa chasse gardée. Le soutien se limite à la formation. Il y a un an, la Chine et l'Union concluent un accord très critiqué sur les investissements. C'est la bataille d'Angela Merkel, tellement controversée que la chancelière a dû lutter contre les Pays-Bas, la Belgique, la France, et que le texte n'a plus de chance d'être ratifié au Parlement. La diplomatie européenne ne pèse rien face aux intérêts économiques des États membres. Et même si le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la sécurité a tenté de rappeler l'existence diplomatique de l'Europe dans le dossier ukrainien, Josep Borrell était même sur le terrain la semaine dernière, mais il a bien du mal à rappeler à Moscou, Kiev et Washington qu'il existe.
Retour en studio avec Grégory Reiko du site The Conversation.
Oui, Nicole Nisotto, on a entendu dans ce reportage l'illustration de toutes les difficultés qu'ont les Européens à s'entendre, leurs très nombreuses disparités. Et quand on entend également toutes ces opinions sur la nécessité pour les Européens de se distinguer des États-Unis, de se dissocier d'eux, quand on voit la complexité qu'ils ont à s'entendre entre eux, on se demande finalement est-ce qu'il est vraiment nécessaire que l'Europe se distingue des États-Unis ? Parce que finalement, on partage à peu près les mêmes valeurs démocratiques. Comme on l'a entendu, la plupart des pays européens sont membres de l'OTAN et donc s'en remettent à Washington pour les questions de sécurité. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui nécessiterait vraiment une prise de distance vis-à-vis de Washington ?
Mais je crois qu'il y a un malentendu. L'objectif de l'Europe, en tout cas dans l'ambition d'une Europe acteur politique international, l'objectif, c'est pas de se distinguer des États-Unis. L'objectif, c'est de se distinguer des États-Unis quand la politique américaine est en contradiction avec les intérêts européens. Mais on peut penser, comme vous le dites d'ailleurs, comme on a des valeurs communes, des intérêts économiques communs, comme on est totalement interdépendant, on peut penser qu'à 90%, nos intérêts et les intérêts des Américains coïncident. Mais il peut se passer, on l'a vu en Irak en 2003, par exemple, il peut arriver des cas, on le voit encore aujourd'hui en Iran, moi je pense que nos intérêts ne sont pas les mêmes, où il y a divergence d'intérêts. Et c'est là où les Européens doivent avoir le courage de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la politique américaine, nos intérêts ce n'est pas la confrontation, et donc d'essayer d'avoir une politique européenne propre. Si je puis ajouter un mot, je trouve que votre reportage est un peu sévère sur les divisions européennes, parce que, juste un point sur la Libye. Alors, c'est vrai qu'il y a les Italiens sont très virulents contre l'intervention franco-britannique. C'était pas une intervention française seule, c'était une intervention franco-britannique avec le soutien des Américains. Mais il faut quand même dire que les Italiens ont un intérêt énergétique énorme en Libye. Le pétrole libyen, c'est presque un marché gardé de l'Italie. Donc, c'est pas une politique... Les Italiens sont pas en train de défendre des valeurs. Ils défendent leurs intérêts comme tout le monde. Mais effectivement, donc, il manque la deuxième partie, c'est-à-dire il y a eu quand même des grands succès européens.
Alors lesquels ?
Diplomatiques. Bah, par exemple, alors, pour remonter très très loin, 1980, qui est le Conseil européen de Venise, c'était le tout début de la coopération politique européenne, et bien ce sont les Européens, sous la houlette de Giscard d'Estaing, qui annoncent la solution pour le problème israélo-palestinien, c'est-à-dire deux États dans des frontières, deux États, deux peuples dans des frontières sûres et reconnues. À l'époque, c'est considéré comme une hérésie par les Américains, mais ils l'ont fait. Après, silence de mort pendant des années, mais 2003, la guerre en Irak. Alors, on se divise énormément entre Européens, ça c'est vrai, mais on arrive à faire deux succès diplomatiques. Le premier, c'est l'écriture, l'adoption d'une stratégie européenne de sécurité qui est l'inverse de la politique américaine, totalement inverse. Les Américains mettaient à l'époque le terrorisme et la lutte contre la prolifération comme les seules menaces mondiales. Les Européens disent pas du tout, il y a les conflits régionaux, etc., etc. Donc ça, il fallait le faire et on l'a fait en 2003, au moment même où les Américains intervenaient en Irak. Et deuxièmement, en 2003, Javier Solana arrive à convaincre les Américains qu'il n'y a pas de solution militaire sur l'Iran. Et l'Iran, la négociation qui existe aujourd'hui avec les Iraniens et le traité qui a été signé en 2015, est un succès diplomatique sans précédent de l'Union européenne, parce que sur l'Iran, c'est le haut représentant de l'Union qui représentait les cinq permanents du Conseil de sécurité. Donc on ne peut pas dire qu'il y a toujours des échecs. Il y a d'autres, si j'avais le temps, je vous en donnerais d'autres. Par exemple, la Géorgie, en 2008, la guerre en Géorgie, c'était aussi une présidence française, c'était Sarkozy. Et donc chaque fois qu'il y a une présidence française, d'ailleurs, il y a une crise, il y a une guerre avec la Russie. Eh bien, le plan de paix en 10 points, c'est sous l'initiative de la présidence de l'Union européenne que les Russes et les Géorgiens l'ont accepté.
Florent Parmentier, elle arrive à devenir une puissance géopolitique, cette Europe, aujourd'hui ?
Ce qui est certain, c'est que je pense que les termes du débat vont évoluer dans les prochaines années. Pourquoi ? Tout simplement parce que tant que les États-Unis faisaient de la Russie le premier adversaire, l'adversaire résurgent qui possiblement pouvait, etc., déborder de ses frontières, les pays d'Europe centrale et orientale, plus particulièrement certains d'entre eux, les trois États baltes, la Pologne, avaient toute légitimité à dire aux États-Unis « mais nous, on sera à l'avant-garde de cette frontière avec la Russie, on va garder en quelque sorte les frontières du monde civilisé ». C'est à peu près le type de discours qu'on pouvait trouver. À partir du moment où, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire le changement a commencé à opérer sous Obama, vous dites que c'est la Chine qui est le principal rival des États-Unis. Je pense que les termes du débat en Europe vont changer. Et plutôt que de se dire « comment je fais pour coller au plus à la position américaine qui doit être nécessairement une position de rivalité et d'antagonisme vis-à-vis de la Russie », on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, pour les États-Unis, la Russie est en quelque sorte une superpuissance régionale, une superpuissance sur un certain nombre de sujets, sur le nombre de têtes nucléaires, vous ne pouvez pas négocier quoi que ce soit en dehors de la Russie, ça n'aurait pas de sens. En revanche, sur d'autres sujets, on sent bien que la Russie a une grande armée, on sent bien que la Russie est là, mais la Russie reste finalement une économie de la taille de l'Italie et un budget de défense de la taille du Royaume-Uni. En revanche, ce qu'on a observé effectivement depuis quelques années aux États-Unis, c'est cette rivalité avec la Chine. Cette rivalité avec la Chine va obliger les Européens à prendre un tournant qui consiste à se dire: est-ce qu'on sera les meilleurs alliés des États-Unis en restant finalement dans une situation de dépendance vis-à-vis d'eux sur un plan militaire et autre? Ou est-ce que finalement les Européens ne seraient pas mieux inspirés, et c'est en tout cas le pari que fait la diplomatie française, mais pas seulement, de se dire que demain les meilleurs alliés des États-Unis, ce sont des pays qui savent se prendre en quelque sorte en charge. Et donc c'est là-dessus peut-être où les lignes en Europe vont certainement être amenées à changer. Une position française qui sera moins perçue comme anti-américaine qu'elle n'est pas vraiment, et des États européens qui se diront aussi finalement que peut-être qu'au-delà de la confiance qu'on peut avoir dans les États-Unis, il faut qu'on se mette à travailler davantage ensemble. Il y a donc une dynamique politique qui pourrait aller dans ce sens-là, et je pense que le fait qu'il y a un antagonisme finalement entre les États-Unis et la Chine pousse en quelque sorte les Européens à travailler davantage ensemble.
Carrefour de l'Europe aujourd'hui, en partenariat avec le site The Conversation et Grégory Reiko. Avec nous deux invités, Nicole Nesotto pour son livre « L'Europe, changer ou périr » et Florent Parmentier du CVPOF Sciences Po. On va bien sûr parler de l'Ukraine, immense pays aux portes de l'Europe et de la Russie, candidat malheureux à l'intégration dans l'OTAN et dans l'antichambre de l'Europe. Le pays fait face à une guerre civile sécessionniste dans l'est du pays, le Donbass. Conflit gelé mais loin d'être terminé. Il doit aujourd'hui faire face à un afflux massif de troupes russes à sa frontière, avec le risque d'un nouveau conflit. D'où les intenses tractations diplomatiques de cette semaine, dont les Européens ont été presque évincés. Comment expliquer cet échec, Nicole Nesotto ?
Moi, je ne parlerai pas d'échec. Les Européens ont inventé cette idée d'un dialogue direct avec la Russie sur l'architecture européenne de sécurité. Emmanuel Macron l'a proposé l'été 2019. Il a dit qu'il était temps de... Il a appelé ça une architecture de sécurité et de confiance.
Alors, mais les Européens ont refusé ce sommet.
Ils ont dit non, vous avez des raisons. Un an, deux ans après, en juin 21, donc très récemment, au Conseil européen, la France et l'Allemagne ensemble font une proposition commune d'ouverture d'un dialogue stratégique qu'ils appellent « exigeant », je cite, avec la Russie. Ce qui veut dire que les Européens sentaient bien qu'on ne peut pas continuer à traiter la Russie comme une province de l'Empire romain germanique. Mais alors là, ils ont été mis en veto par la Pologne, les États baltes et la Suède. Donc les autres étaient d'accord. Et finalement, la France et l'Allemagne ont renoncé. C'était peut-être l'erreur. Moi, je pense qu'il fallait essayer à deux de amorcer un dialogue avec la Russie et ensuite peut-être d'amener avec soi les autres Européens. Mais en tout cas, ce que je veux dire, à l'époque, les Américains n'ont absolument pas bronché, ne nous ont pas soutenus, rien du tout. Mais l'idée qu'il faut reprendre des conversations stratégiques avec la Russie, qui est là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la géographie, ça ne se change pas, donc il va bien falloir parler avec la Russie, même si on ne l'aime pas. Cette idée-là est une idée européenne dans l'âme, c'est vraiment le cœur de la diplomatie européenne, c'est de négocier, y compris avec son pire ennemi, avant de commencer à parler de guerre. Et donc, évidemment, donc, là où on peut être critique, c'est que les Européens doivent s'en prendre à eux-mêmes s'ils n'ont pas réussi à faire valoir cette idée. Et autrement dit, moi, je ne blâme pas les Américains. Dieu sait que je les blâme sur beaucoup de dossiers, mais pas sur celui-là. Il y a un intérêt des Russes à ne traiter qu'avec Washington. Pourquoi ? Parce que ça les met au niveau de la superpuissance américaine et que Poutine a un problème de statut. Il ne veut pas apparaître comme une puissance régionale. Donc, il ne veut traiter qu'avec le chef, qu'avec les États-Unis. Donc, je pense qu'il n'aurait de toute façon pas accepté un dialogue pour commencer avec les Européens. Mais le fait que le dialogue commence avec les Américains ne veut pas dire qu'après, les Européens doivent continuer à attendre benoîtement que des résultats arrivent. Il faut que les Européens reprennent la main dans leur dialogue avec la Russie, parce que c'est la géographie européenne qui est concernée et pas la géographie américaine.
Grégory Reiko, de The Conversation.
Oui, vous dites justement que Poutine veut parler avec le chef. Le chef, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas le chef de l'Union européenne, ils sont le chef de l'OTAN. Ce qui obnubile complètement Moscou aujourd'hui, c'est l'OTAN. On a entendu les exigences récentes exprimées par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Et, une fin officielle de tout élargissement à l'est de l'OTAN, un retrait des installations militaires otaniennes des pays qui sont entrés à partir de 2004-2005. C'est-à-dire donc de tous les pays d'Europe de l'Est, est-ce que c'est des bases sur lesquelles il est possible de négocier ? Est-ce que de toute façon, ça ne passe pas, encore une fois, au-dessus de la tête de l'Union européenne ?
Écoutez, la question de l'élargissement de l'OTAN, c'est un panier d'hypocrisie. Il faut quand même être clair. En 2008, quand la question se pose, la France et l'Allemagne...
Avec la Géorgie et l'Ukraine, justement.
Avec la Géorgie et l'Ukraine, la France et l'Allemagne disent non. On ne peut pas élargir l'OTAN parce qu'il y a des contraintes stratégiques. On ne peut pas agiter un chiffon rouge. Et donc l'OTAN, les Américains de l'époque, et l'OTAN dit, adopte ce qu'on appelle la stratégie de la porte ouverte. Il n'y a pas de date pour l'entrée de ces pays, mais la porte leur est ouverte. Donc un jour, peut-être, si Dieu le veut, ils entreront. Donc ça, c'est un compromis qui a été accepté par les pays de l'OTAN, parce que ça n'est pas une petite affaire d'élargir l'OTAN à l'Ukraine. Ça veut dire mettre des forces éventuelles de l'OTAN à la frontière de la Russie, à 1 centimètre de la Russie. Or, souvenez-vous quand dans les années 60, les Américains n'ont pas supporté que les Russes mettent des missiles à Cuba, à la frontière des États-Unis. Donc, je trouve personnellement que les Russes ont raison. Et Dieu sait que je ne défends pas Poutine. Mais les Russes ont raison de dire que l'OTAN ne peut pas avaler tout ce que perd l'Union soviétique. Et donc, il faut qu'il y ait une entente, une négociation. On ne peut pas mettre des forces américaines à la frontière de la Russie, sauf si on veut la guerre. Et moi, personnellement, je trouve que la solution devrait être ni OTAN, ni agression. C'est-à-dire que l'Ukraine soit une zone comme était la Finlande pendant la guerre froide, finlandisée, ça n'est pas un gros mot. Ça a permis à la Finlande de devenir une démocratie formidable avec un succès économique exceptionnel parce qu'elle avait des garanties indirectes des États-Unis. Et donc aujourd'hui, pour l'Ukraine, ça peut être un début de solution. Mais je termine en disant, c'est pas parce qu'un pays démocratique demande de rentrer dans l'Union et dans l'OTAN qu'on doit dire oui. C'est quand même extraordinaire que l'OTAN n'ait pas le droit de dire non.
La question qui se pose de manière cruciale pour l'Ukraine, c'est qui va l'aider à se défendre ? Dans un article du New York Times, les généraux ukrainiens ont estimé qu'ils ne pourraient résister que 4 jours à une invasion russe. Et c'est dans ce contexte que le représentant européen pour les affaires étrangères et de sécurité a fait le déplacement sur la ligne de front ukrainienne dans l'est du pays. Josep Borrell était là-bas et c'est le reportage de Stéphane Sion, notre correspondant en Ukraine. On l'écoute.
Le 6 janvier dernier, Josep Borrell s'est rendu à Stanitsa Louganska sur la ligne de front du Donbass. C'est la première fois en bientôt 8 ans qu'un chef de la diplomatie de l'Union européenne a foulé le territoire de la seule guerre active en Europe. Or, cette fois-ci, Bruxelles s'alarme, car comme l'a déclaré Josep Borrell, la Fédération de Russie fait monter les enchères.
Cette fois, c'est différent. Il y a les troupes massées à la frontière de l'Ukraine, mais il y a aussi cette demande de négocier au sujet de deux traités que la Russie a proposés pour discuter autour de la sécurité en Europe. Mais nous ne sommes plus au temps de Yalta. La délimitation des sphères d'influence entre deux grandes puissances n'appartient pas à 2022. Nous voulons la désescalade par le dialogue, mais avec la position forte que toute agression militaire contre l'Ukraine aura des conséquences massives et un coût élevé.
Des conséquences massives, mais pour l'Ukraine, ce sera peut-être déjà trop tard. Ces derniers mois, les Ukrainiens se sont montrés critiques avec les Européens, accusés d'être trop frileux quand il s'agit de questions de sécurité. Fin 2021, le gouvernement Zelensky a réagi avec irritation après que l'Allemagne ait délibérément bloqué la vente à l'Ukraine de fusils anti-sniper lors d'un appel d'offres de l'OTAN. Désormais, à Kiev, on a décidé de s'appuyer sur des alliés stables, bien disposés, et comme le rappelle Kaimo Kusk, l'ambassadeur d'Estonie à Kiev, les pays baltes seront toujours derrière l'Ukraine.
Nous avons déjà livré du matériel militaire à l'Ukraine par le passé, par exemple des armes légères, des pistolets, mais alors que la Russie renforce de nouveau sa pression militaire, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions apporter ici, ce dont l'Ukraine a besoin. Et donc nous proposons de livrer des missiles Javelin et des canons d'artillerie.
L'Estonie est ainsi le premier pays qui a proposé en décembre de livrer des armements lourds à l'Ukraine tant que l'Alliance Atlantique ne l'accepte pas en son sein. Les trois petits pays baltes font partie des quatre plus gros pourvoyeurs d'équipements militaires et de munitions à l'Ukraine. Mais ces derniers temps, Kiev s'est largement tourné vers deux autres pays qui, eux, ne sont pas membres de l'Union européenne, comme l'explique Ilya Ponomarenko, journaliste défense au journal Kiev Independent.
If you ask me who is our best...
Si vous me demandez qui est notre meilleur partenaire, ma réponse immédiate est la Turquie. La Turquie s'est avérée plus flexible que d'autres, politiquement et économiquement. C'est une situation gagnant-gagnant pour Kiev et Ankara. En fait, la Turquie est très flexible et très ouverte à une politique étrangère multilatérale. Beaucoup de gens me répondront que de l'autre côté, la Turquie est prête à travailler avec la Russie. Ankara est prête à une diplomatie multivectorielle.
Depuis 4 ans, on compte 30 projets turco-ukrainiens dans le secteur de l'armement, tandis que les accords militaires entre Kiev et Ankara représentent désormais un montant de 5 milliards de dollars. Ilya Ponomarenko souligne aussi que depuis le Brexit, le Royaume-Uni est devenu l'autre partenaire majeur.
Les gouvernements britanniques et ukrainiens ont récemment passé un accord de plus d'un milliard de livres sterling en faveur de l'Ukraine, qui sera dépensé pour la marine et les infrastructures maritimes, et en particulier dans la construction de bases navales sur la côte de la mer d'Azov, ce qui est crucial car avec la Crimée, nous avons perdu 80% de notre infrastructure navale.
Au lieu d'attendre une adhésion à l'OTAN à vrai dire incertaine, le gouvernement ukrainien teste de nouvelles approches, signe des accords de défense bilatéraux et ce faisant, l'Ukraine tente de tisser sa toile et de former une coalition d'alliés. Le dernier en date, la Suède, qui a signé en décembre avec Kiev un accord de coopération militaire. Selon Oleksiy Melnyk, directeur du Centre d'études Razumkov et expert en sécurité et défense, cette nouvelle constellation d'accords pourrait totalement changer la donne avec la Russie.
Avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Turquie, l'Ukraine a le potentiel, dans un horizon de 1 ou 2 ans, non pas de devenir suffisamment forte pour attaquer la Russie, mais de se défendre contre la Russie.
Ce qui est certain, c'est que l'armée ukrainienne de 2022 n'est plus celle de 2014, quand les soldats se battaient à Mariupol en claquettes. Elle s'est aguerrie, dispose d'armements plus modernes et le budget de la défense a augmenté de 25% depuis 2018.
Une question, Grégory Reiko de The Conversation.
Oui, Florent Parmentier, vous êtes un très bon connaisseur du dossier ukrainien. Est-ce que, au vu de ce qu'on vient d'entendre, vous partagez l'avis de certains chercheurs ukrainiens qui estiment qu'avec les aides qui proviennent d'autres pays, les Ukrainiens vont pouvoir, le cas échéant, résister à la Russie Russie, cette Russie qui dispose de nombreux moyens de pression. Il y a eu, il y a quelques jours, une cyberattaque d'une grande ampleur sur les sites ukrainiens. Est-ce que l'Ukraine va réussir à se défendre? Et en tout cas, si oui, est-ce que ça sera non pas grâce à l'Union européenne, mais grâce à des accords bilatéraux qui finalement montrent que l'Union européenne n'est pas un acteur en tant que tel sur le domaine stratégique et finalement apparaît presque, selon la formule de Sigmar Gabriel, ancien ministre allemand des Affaires étrangères, comme un herbivore dans un monde carnivore.
Oui, vous avez raison de bien préciser effectivement cette dernière expression. Vous avez raison aussi de montrer les vulnérabilités de l'Ukraine. Vulnérabilités qu'on a vues il y a quelques jours concernant le cyber. Des vulnérabilités sur les différents terrains d'opération. Donc en réalité, moi je crois qu'on peut être assez inquiet s'il fallait juger de la capacité de l'Ukraine à résister. Évidemment, l'armée ukrainienne est plus puissante qu'elle ne l'était en 2014. C'est un fait avéré. Mais il ne faut pas croire que l'armée russe soit plus faible qu'elle n'était en 2014. Elle s'est aussi également renforcée. Donc c'est là où effectivement, il faut rappeler, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt à mettre au crédit des Ukrainiens, c'est que les Ukrainiens ont accepté en 1994 le mémorandum de Budapest, accord avec lequel il y avait des garanties de sécurité pour la dénucléarisation de l'Ukraine. Cet accord avait notamment les États-Unis, le Royaume-Uni comme défense, et on devait s'assurer en tant qu'allié de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc là, les paroles qui ont été données aux Ukrainiens n'ont pas fonctionné en 2014 quand l'Ukraine a été en guerre avec la Russie et avec les séparatistes en son sein. Donc je pense que de ce point de vue-là, effectivement, on peut être inquiet. Ensuite, il faut voir également que là où la situation change, c'est de voir un peu les intentions qu'on peut déceler par rapport à la Russie. Vous avez raison de mentionner un peu plus tôt un fait qui est important, qui était les attentes de Lavrov vis-à-vis de l'OTAN, qui non seulement sont irréalistes, mais en plus ont été annoncées dans la presse. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas une base de négociation. Si c'était la base de négociation, ce serait resté évidemment secret. En revanche, il faut se demander si 100 000 hommes qui vont... ils n'ont pas franchi la frontière, ils sont toujours en Russie. De ce point de vue-là, il n'y a rien d'illégal dans l'action de la Russie à déplacer des troupes à sa propre frontière. Il faut se demander si c'est le prélude à une attaque ou une forme de déstabilisation. Ce qu'on observe, c'est que malgré tout, si la Russie peut obtenir le même résultat politique, c'est-à-dire une déstabilisation de l'Ukraine, sans avoir à tirer un seul coup de fusil, c'est effectivement à l'avantage, en quelque sorte, de la Russie. Et donc, la Russie va probablement... là aussi, pousser dans un sens et voir un petit peu, mettre peut-être les Européens, les Américains notamment, face à leurs contradictions. Est-il à la fois possible de dire qu'on n'exclut pas d'intégrer au sein de l'OTAN, effectivement, l'Ukraine, et dans le même temps de ne pas être prêt à aller soutenir l'Ukraine si jamais il y a un conflit? C'est, je pense, sur ce hiatus-là que la politique russe, en fait, est en train d'insister.
Et Nicole Nesotto, on voit bien, les Européens ne sont pas non plus prêts à aider tant que ça l'Ukraine en matière de défense. En tout cas, l'Europe de la défense, elle n'existe pas. Pourquoi n'existe pas? Est-ce qu'il y a une crainte des autres pays européens de voir cette Union européenne, cette Europe de la défense, qui serait d'une certaine manière, qui pourrait être confisquée par la France?
Alors, je vais répondre à votre question, mais quand même d'abord sur l'Ukraine. Je ne sais pas quelles sont les intentions de Poutine. Peut-être qu'il attaquera, peut-être pas. Moi, je ne crois pas, mais je ne sais pas. Ce dont j'en suis sûre, en revanche, c'est que du côté occidentaux, ni l'Union européenne en tant que telle, ni les États membres de l'Union, ni les Américains n'iront à la guerre. Et donc, il faut quand même se souvenir qu'en 2008, les Américains avaient fait croire aux Géorgiens qu'ils les soutiendraient militairement. Et donc les Géorgiens sont partis comme en 40 dans l'aventure avec les Russes. Or, il n'y avait aucune volonté des Américains de soutenir la Géorgie. Je crois que c'est la même chose aujourd'hui avec l'Ukraine. En matière d'insécurité, le pire, c'est de faire des fausses promesses. Et donc, encore une fois, la question est de savoir, est-ce qu'on veut que l'Ukraine gagne éventuellement une guerre contre la Russie, ou est-ce qu'on veut empêcher la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Moi, je crois que la diplomatie européenne doit faire tous les efforts qu'elle peut, et les Américains aussi, pour empêcher la guerre.
Mais est-ce qu'on soutient militairement l'Ukraine pour que, justement, il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait de dissuasion?
Mais le rapport de force est de toute façon en faveur de la Russie. Le rapport de force ne sera jamais en faveur de l'Ukraine. Donc c'est faux de dire on aide l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Ça, elle ne résistera pas. devant une invasion russe si jamais les Russes voulaient aller jusque-là. Et donc, moi, je crois que, encore une fois, la solution, elle n'est pas militaire dans ce conflit. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, en Europe, avec le Covid, avec les crises, les Européens sont prêts à aller dans une aventure militaire contre la Russie ? Ça n'a pas, à mon avis, de sens politique. Je crois que la solution du conflit en Ukraine, elle ne peut être que politique.
Vous dites la solution, elle est politique, elle est géopolitique, diplomatique, mais... comme on l'a dit dans cette émission, l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix. Et vous, vous avez une proposition hein, pour que, justement, il y ait cette voix européenne qui, aujourd'hui, est contrainte par cette fameuse règle de l'unanimité qui empêche toute décision européenne au Conseil européen.
Alors, oui, l'unanimité, c'est la règle. En matière de politique étrangère et de défense, chacun a un droit de veto et c'est normal. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de la politique étrangère comme on fait des voitures ou des casseroles. Au bout de la politique étrangère, il y a peut-être un risque de mort si ça se termine mal par une opération militaire. Et donc, il est normal que les États veulent garder la souveraineté sur le risque de mort qu'ils feraient courir à leurs citoyens. Mais il se trouve que la Commission européenne et l'Allemagne, d'ailleurs de Mme Merkel, je ne sais pas pour le nouveau gouvernement, avaient proposé, justement pour supprimer ce blocage de la politique étrangère commune par le veto d'un seul, que l'on vote à majorité qualifiée. Moi, je suis contre. Je ne crois pas qu'on puisse voter la vie des citoyens européens par un vote à majorité qualifiée. Mais si on devait le faire, ma proposition est de
dire... Oui, vous avez une proposition voilà, quand même
d'un certain
vote.
Ma proposition est de dire, ok, admettons, si vous voulez, mais certainement pas le même vote à majorité qualifiée que l'on utilise pour voter la circonférence des pommeaux de douche ou pour voter l'appellation de telle ou telle mozzarella. Il faut inventer une majorité qualifiée propre à la politique étrangère et à la défense, de même qu'on a inventé des ambassadeurs à l'Union européenne propres en matière de politique étrangère et de défense, ce sont les COPS, ce ne sont pas les ambassadeurs communautaires. Et bien de même, il faudrait inventer une majorité qualifiée qui soit spécifique à la politique étrangère et qui donne aux pays qui ont une politique étrangère, qui ont des moyens militaires, plus de voix que les pays qui n'ont rien.
Ça vous semble une bonne idée, Florent Parmentier ?
Oui, moi j'aimerais revenir également sur un point qui est... la question de parler d'une seule voix. Si on regarde ce qui s'est passé par rapport à la Russie, il y a quand même quelque chose d'intéressant et qu'il faut, à mon avis, mentionner. La Russie était l'un des pays sur lesquels il y avait le plus de divisions au sein de l'Union européenne, pour des raisons tout à fait historiquement explicables. Mais si on regarde, y compris au sein du groupe de Visegrad, qui regroupe la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, on a des divisions sur la manière dont il faudrait considérer la Russie. Et donc, ces éléments de division n'ont pas empêché les Européens de converger vers une politique de sanctions. Cette politique de sanctions, elle rassemble l'ensemble des Européens. On peut considérer que ça peut être insuffisant, que ça peut être une forme de piège puisqu'il est difficile de sortir des sanctions. On peut considérer que ça n'a peut-être pas été jusqu'au bout dans les conséquences, ou en tout cas dans les conséquences positives qu'on pouvait en attendre. Mais il serait faux de dire que même sur un problème qui divise autant les Européens finalement que la Russie, il n'est pas possible d'arriver à des formes de consensus et de compromis. Et cela, effectivement, pour une raison simple, c'est quand vous êtes 27 autour de la table, vous pouvez vous permettre de déroger par rapport à l'ensemble des membres sur une ou deux aspects de la négociation, mais il y a un jeu global des négociations au niveau européen qui fait que faire cavalier seul sur un ensemble de sujets est tout simplement extrêmement politiquement coûteux. Et donc, on voit que même les États qui avaient des relations privilégiées avec la Russie ont souscrit à ce régime de sanctions, parfois avec un temps de retard, mais en tout cas, on ne peut pas dire que les Européens n'ont pas les moyens d'arriver à des formes de compromis qui permettent ensuite d'avoir... La difficulté, c'est que la politique étrangère...
Mais c'est le temps long, la difficulté.
C'est effectivement, parfois, l'action s'appuie sur la vitesse, là où avoir une culture commune stratégique permet effectivement de comprendre les problèmes de manière beaucoup plus conforme, en quelque sorte, ou beaucoup plus homogène, et facilite la prise de décision.
Grégory Réco.
On a beaucoup entendu durant notre émission la difficulté qu'il y avait à s'entendre à 27. Aujourd'hui, on est 27, mais il n'y a pas longtemps, on était 28. Mais est-ce que bientôt, on sera plus de 30, puisqu'il y a encore plusieurs pays qui sont dans la salle d'attente de l'UE. Ce sont des pays des Balkans. Et est-ce que tous ces pays, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et notamment la Bosnie, pourraient un jour intégrer l'Union européenne ? Et est-ce que ça serait une garantie de paix dans cette région ? On sait que la Bosnie, aujourd'hui, est face à un risque de déstabilisation vraiment
vraiment très élevée. Est-ce que l'Union peut encore accueillir des pays? Et si oui, est-ce que ce serait une bonne chose pour ces pays?
Nicole Nesotto.
Alors, les États membres, en tout cas les 27, je crois, se sont engagés à ce que tous les pays des Balkans rentrent un jour dans l'Union et vocation. Et cet engagement, il est beaucoup plus fort dans l'Union pour les pays des Balkans que dans l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine et de la Géorgie. Donc oui, ces pays doivent rentrer un jour dans l'Union européenne. Mais pas l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Je donne un seul exemple. Si tous les pays de l'ex-Yougoslavie entrent dans l'Union européenne, ensemble, ils auront 8 commissaires. La France n'en aura qu'un. L'Allemagne n'en aura qu'un. Ça n'a aucun sens politique. Jamais le Parlement français ne ratifiera un traité dans lequel les Baltes auraient 3 commissaires, les Balkans 8 commissaires qui représentent à peine, j'ai pas fait le calcul en chef démographique, mais la Serbie, ça doit faire à peine 50 millions d'habitants. Ça n'a aucun sens. Donc oui, ils doivent rentrer, ils peuvent rentrer dans l'Union européenne, mais pas avant qu'on ait modifié un certain nombre d'institutions, notamment là, le nombre de commissaires, notamment la représentation parlementaire. Et à ce moment-là, oui, ils peuvent rentrer.
Ce qui nous amène au début de cette émission où vous disiez qu'il faut réformer l'Europe. Florent Parmentier, si l'Europe s'élargit, est-ce que c'est un gage de paix? Est-ce qu'il faut élargir pour avoir la paix ou il faut avoir la paix d'abord pour se permettre d'élargir?
C'est une excellente question. Je crois qu'il faut rappeler effectivement qu'en 2003, au sommet Thessalonique, les Européens s'étaient en quelque sorte engagés à élargir les pays des Balkans. Une fois qu'on a dit effectivement qu'on s'engage à élargir, il faut tenir compte de l'autre facteur qui est celui de la capacité d'absorption politique. Et cette capacité d'absorption, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend notamment de règles internes, que Nicole Nesotto vient de rappeler. Ça dépend également de conditions économiques, de conditions politiques, etc. Ce qui a changé peut-être depuis 2003, c'est qu'en 2003, nous étions encore dans l'idée que l'élargissement était la plus grande aventure de politique étrangère de l'Union européenne et même probablement dans l'histoire, la plus grande garantie d'élargissement démocratique sur le continent européen. Peut-être qu'aujourd'hui, à la fois, ces élargissements ont été nécessaires, mais les formes de démocratie libérale qu'on voit apparaître et de défis, finalement, on pense plus spécifiquement à la Pologne ou à la Hongrie, mais pas seulement, peut-être que l'idée selon laquelle on proposera l'élargissement et la paix et la démocratie sont là pour toujours. La paix, fort heureusement, a été acquise. On voit bien qu'il y a eu des reculs démocratiques, y compris au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on pourrait tout à fait douter du fait qu'on accepterait la Hongrie telle qu'elle est aujourd'hui ou la Pologne telle qu'elle est aujourd'hui par rapport aux critères qu'on s'était fixés. Donc, il y a là, je pense, matière à réflexion pour les Européens, c'est qu'est-ce qu'on fera une fois que ces États auront été admis au sein de l'Union européenne pour être sûr qu'on ne dérive pas finalement sur des régimes politiques qui seraient moins libéraux que ceux qu'on connaît, c'est-à-dire moins à même de garantir les libertés individuelles, à même de contester l'état de droit ou à même de remettre en cause finalement les caractéristiques démocratiques. Ces deux États d'ailleurs ne sont pas les seuls, on observe des tendances illibérales beaucoup plus largement au sein de l'Union européenne. Et donc c'est effectivement peut-être ces enjeux-là, au-delà de l'enjeu stratégique et institutionnel, c'est un enjeu démocratique, politique, en fait, de stabilisation des régimes, pour lequel évidemment les Européens sont encore en réflexion.
Une Europe plus large donc, mais aussi plus complexe et donc peut-être aussi plus fragile. Carrefour de l'Europe s'interrogeait aujourd'hui sur la place de l'Europe dans le monde. Merci à nos invités, Nicole Nesotto, et pour son livre « L'Europe changer ou périr ». Merci à Florent Parmentier, à Grégory Reiko de The Conversation et bien sûr Ludivine Amado qui a réalisé cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine depuis le Parlement européen à Strasbourg et le lancement de cette fameuse présidence française du Conseil de l'Union européenne. À la semaine prochaine.